Ah oui, dans les rues de Londres, Valérie, quand on est arrivé, on s'est rendu compte que rien ne trahit au fond le blizzard politique qui s'est levé.
Non, on dirait vraiment pas qu'il y a eu des élections. Il faut vraiment le savoir pour le croire. Aucun signe dans la rue. Alors peut-être qu'ici on est dans le cœur, Eric, un peu trop touristique de Londres. Peut-être que dans les périphéries c'était un peu plus visible, mais vraiment rien de rien. Et puis une victoire écrasante comme celle de David Cameron qui a surpris tout le monde. On se disait tout à l'heure en préparant cette émission au centre de Londres ici que si on était en France, par exemple, les gens sortiraient dans la rue et manifesteraient. Alors, il y aurait une liesse populaire. Mais alors ici, rien du tout. Les Londoniens travaillent, bossent, vraiment l'air
c'est
de rien.
Business as usual.
Mais c'est quand même pour ça qu'on est venu, hein, pour faire vivre ces élections et puis surtout les résultats et les conséquences. Donc c'est une particularité, certes, toute britannique peut-être.
Oui, parce que c'est maintenant que les choses compliquées commencent.
Et oui, résultat inattendu, pour le moins spectaculaire, autant d'adjectifs ou déstabilisant peut-être pour le Royaume-Uni. Donc David Cameron, le leader des conservateurs, qui repart du coup pour 5 ans à la tête d'un gouvernement, mais seul, sans devoir faire de coalition à une courte majorité, mais quand même tout seul, et ça c'est très inattendu. Résultat qui désavoue tous les sondages et tous les pronostics. Alors on va tout d'abord l'écouter avant d'accueillir nos invités David Cameron dans son discours officiel, après avoir rencontré, comme il se doit, la reine Elisabeth.
Je suis persuadé que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère pour notre pays. Nous pouvons faire de la Grande-Bretagne un lieu où chaque personne qui veut travailler et faire quelque chose pourra avoir une bonne situation. Notre manifeste s'adresse aux travailleurs et en tant que majorité gouvernementale, nous œuvrerons pour eux. En cela, notre majorité est une majorité responsable.
Voilà, David Cameron dans son discours après avoir vu Queen Elizabeth. Un premier invité, bonsoir Quentin Peel.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Financial Times. Merci de nous avoir rejoints pour cette émission avec nous jusqu'à 19h à Sceaux, au cœur de Londres, dans l'église suisse de Sceaux. Vous êtes l'un des nombreux invités avec qui on va passer cette heure. Une question toute simple, c'est la grande surprise. Tout le monde a été pris de court, les sondages ont été désavoués. Comment est-ce que vous avez vécu ce résultat, est-ce que ça a été un choc ou une grosse surprise pour vous?
Oui, une grande surprise, c'est extraordinaire. Nous avons tous attendu un résultat, effectivement, avec les deux grands partis coude à coude. Et maintenant, tout à coup, on a une victoire assez claire pour les conservateurs. Et on n'attendait pas, et tous les sondages étaient la même. Et on attendait effectivement plusieurs jours, journées ou même semaines pour négocier un gouvernement. Alors, la bonne chose, c'est que nous avons un gouvernement clair. La chose mauvaise, c'est que nous avons un pays qui est effectivement divisé en deux. Nous avons les nationalistes en Écosse, à gauche, et les nationalistes anglaises, effectivement, qui ont voté pour les conservateurs. Alors, un pays divisé en deux, très difficile.
Donc on a deux mouvements nationalistes opposés, si on vous comprend bien.
Oui, alors, c'est-à-dire, les conservateurs ne s'appellent pas des nationalistes, mais effectivement, c'est ce qu'a fait David Cameron pour gagner, c'était de libérer les idées nationalistes anglaises.
Il a promis un référendum sur l'Union européenne, hein. c'est ça.
Sur l'Union européenne, mais aussi il a vraiment dit, oh, si les nationalistes écossais viennent à Londres, vous allez voter pour les travailleurs, c'est très dangereux pour le pays. Alors comme ça, il a vraiment chauffé le nationalisme anglais. C'est dangereux.
Alors Catherine Illich, on est venu sur vos terres, hein, puisqu'on vous connaît bien, on connaît bien votre voix, vous êtes notre correspondante ici à Londres. Bon, entre hier et aujourd'hui, c'est deux mondes différents, hein, personne ne s'y attendait.
Oui, tout à fait, hier on échafaudait toutes sortes de scénarios d'alliances entre partis, on parlait de coalition, tout ça s'est envolé, et finalement on a un résultat très clair, comme Quentin Peel l'a dit, une majorité absolue pour les conservateurs, c'est un triomphe personnel pour David Cameron. Personne ne pensait qu'il parviendrait à un tel résultat, commencé sans doute par lui-même. Mais même s'il ressort grandi de ce scrutin, ça ne signifie pas pour autant que ces 5 prochaines années vont être faciles pour lui. Sa majorité est très courte. Et deuxième problème, il y a l'arrivée en force des nationalistes écossais à Westminster, désormais la troisième force politique du pays. Comment va-t-il pouvoir manœuvrer avec eux? Comment va-t-il pouvoir canaliser leur soif d'indépendance? Eh bien, ça, c'est l'un des grands défis qui l'attend.
Mais oui, c'est effectivement, on va en parler, hein, ça, de ce troisième parti des indépendantistes écossais. Ça sera tout l'objet d'une discussion. Un deuxième invité en ce début de forum, Alexandre Afonso, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, chercheur au King's College à Londres. Et vous êtes suisse, je crois.
Oui, je suis lausannois.
De Lausanne, comme ça. On est un peu comme à la maison. On est un peu moins dépaysé. Autre constat très clair et assez incroyable, disons, pas habituel, c'est la démission de trois leaders de partis aujourd'hui, en une seule journée qui démissionne: Nigel Farage de UKIP, Nick Clegg des Lib Dems, les centristes, et puis Ed Miliband à la tête des travaillistes, qui est le grand perdant. Ça c'est quelque chose totalement inattendu, que la Grande-Bretagne n'a jamais vu non plus.
Oui, alors on a eu vraiment beaucoup de figures extrêmement importantes dans la politique anglaise au cours des dernières années qui ont perdu leur siège. On a eu Nigel Farage qui espérait pouvoir obtenir le deuxième siège pour UKIP à Southampton. On a eu Ed Balls qui était le bras droit de Ed Miliband, qui a perdu son siège également, qui était vraiment un personnage central dans la politique anglaise, qui était là aussi très influent sous Gordon Brown. On a eu Danny Alexander qui était très important dans le Parti libéral aussi. On a vraiment eu vraiment des changements très importants qui sont passés hier.
Eh bien, on va justement entendre l'un de ces démissionnaires, c'est Nick Clegg. Écoutez.
Il n'est pas exagéré de dire qu'en l'absence d'un fort leadership, la place de la Grande-Bretagne dans l'Europe et dans le monde et l'existence même du Royaume-Uni sont gravement menacées.
Voilà, Nick Clegg, le leader, l'ex-leader des libéraux-démocrates. Contemple-t-il l'existence même du Royaume-Uni gravement menacée, Mazette?
Oui, c'est bien possible, vraiment, parce que on a deux choses qui sont étroitement liées, c'est-à-dire la promesse de Cameron pour d'un plébiscite, un référendum sur l'Europe. Alors, il doit renégocier les termes de pour la Grande-Bretagne en Europe, et après, il aura un référendum. Si les Anglais votent contre l'Europe, les Écossais vont voter eux-mêmes sur l'indépendance. Et ils vont voter pour l'indépendance si les Anglais votent contre l'Europe.
Mais donc, alors, il y aura d'abord le référendum promis par Cameron avant le vote indépendant écossais.
Le vote écossais pourrait venir un an, deux ans après, mais quand même, les Écossais veulent rester en Europe. Les Anglais sont beaucoup plus eurosceptiques, et ça, c'est le problème.
Mais Alexandre Afonso, les Anglais, ils sont conscients de ces enjeux-là?
Bon, je pense que l'Union européenne n'a pas vraiment été un sujet très important de la campagne électorale. Comme toutes les campagnes électorales en Angleterre, mais aussi dans les grands pays en général, se jouent essentiellement sur des enjeux domestiques, l'emploi. Les conservateurs ont réussi à réduire le chômage. Il y a une reprise maintenant. L'immigration a été un enjeu aussi extrêmement important de la campagne électorale. L'Union européenne, David Cameron a proposé un référendum aussi pour répondre, pour un peu pour stopper l'hémorragie dont les conservateurs avaient très peur avec l'émergence de UKIP. Maintenant, c'est pas vraiment un enjeu dont les Anglais, l'électeur de base a vraiment confiance, et tous les enjeux liés aux relations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne.
Mais ça veut dire que David Cameron a utilisé les arguments de UKIP pour gagner des voix, et au final, ça risque de se retourner contre lui?
Donc, je pense que David Cameron a vraiment joué un jeu assez dangereux entre UKIP d'un côté et l'Union européenne de l'autre, dans la mesure où il a adopté une posture assez dure vis-à-vis de l'Union européenne, en critiquant la libre circulation des personnes, en demandant une renégociation des traités européens aussi, pour montrer qu'il était très... qu'il pouvait convaincre aussi les électeurs potentiels de UKIP, aussi pour renforcer sa position vis-à-vis de l'Union européenne, en disant si on n'a pas une renégociation des traités et si on a un référendum, ben il y a des très grandes chances qu'on va perdre ce référendum maintenant. Ça a aussi fragilisé sa position vis-à-vis de l'Union européenne, parce qu'il y a très peu de chances finalement que ces renégociations et ces changements des traités européens que David Cameron souhaite obtenir, qu'il va effectivement les obtenir. On l'a vu avec son opposition à la nomination de Jean-Claude Juncker comme président. Toutes ces gesticulations ont finalement fatigué beaucoup d'autres leaders européens.
Alors on va écouter maintenant, restez avec nous tous les deux, hein, Alexandre Afonso et Quentin Pille, évidemment. On va écouter maintenant l'un des grands gagnants du jour. Il s'appelle, c'est Charles Tannock. Il est eurodéputé britannique du Parti conservateur de David Cameron, donc du parti grand gagnant. Notre correspondant à Bruxelles, Romain Cliva, lui a tout d'abord demandé s'il était surpris par ce résultat très net. Écoutez.
Oui, il faut être honnête, oui, un peu une surprise parce que tous les sondages dans les derniers 6 mois ont dit la même chose, qu'il y aura un gouvernement de minoritaire, qu'aucun parti aurait une majorité absolue, mais à la fin, ils s'étaient tous trompés parce que David Cameron a eu une victoire assez forte et il a une majorité absolue du Parlement national et il peut faire un gouvernement avec un parti seul, unique, et il peut introduire la législation nécessaire pour compléter le programme économique et aussi la question du référendum sur l'adhésion britannique au Royaume-Uni à l'Union européenne. Il a promis ça et maintenant on va le voir.
Une majorité absolue, mais une majorité très courte. Est-ce que tout de même c'est pas instable pour mettre en œuvre tout un programme?
Bien sûr, ça aurait fait plus plaisir d'avoir une majorité de 20 ou 30 députés. Il a une majorité de 7 ou 8. Il a 330 et 323, c'est le numéro clé. Mais on aura des alliés peut-être aussi en Irlande du Nord, le DUP qui nous appuieront certaines choses. Je suis sûr que ça suffit pour faire ce qu'il veut faire, de continuer avec les réformes économiques, de repayer la dette nationale, de pas augmenter les impôts et, comme j'ai dit, renégocier un nouvel traité ou des nouvelles puissances qui seront retournées de Bruxelles à Londres pour répatrier certaines choses parce qu'il veut une nouvelle relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
Précisément, cette relation, Charles Tannock, vous êtes au Parlement européen depuis 15 ans, vous représentez les conservateurs, les Tories au Parlement européen. Que veut votre parti? Qu'est-ce que vous allez exiger du côté de la Commission européenne et des autres ministres?
Ça, c'est une chose que seulement le Premier ministre peut savoir pour l'instant, mais j'ai certaines idées. La priorité, il a dit publiquement, il a aussi dit aux députés et députés du Parlement national ancien. La question du libre mouvement des citoyens européens, c'est quelque chose que la Suisse comprend très bien. Les abus qui peuvent venir de ceux qui viennent dans mon pays pour seulement être ici, pas pour travailler ou chercher un emploi, mais pour avoir accès à la sécurité nationale britannique, qui est très généreuse, qui peut vous donner un appartement, un certain salaire minimum, etc., qui est au-dessous de ce qu'ils peuvent gagner dans leur pays d'origine. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pour ça que l'UKIP, le parti indépendantiste, a eu beaucoup de succès. La immigration très élevée qui est passée dans les derniers 10 ans. Et Cameron, il veut réduire le numéro des immigrants qui vient non seulement de l'Europe, mais du monde entier, mais aussi réduire leurs accès à la sécurité sociale. Ils doivent travailler peut-être 2 ou 3 ou 4 ou 5 ans avant qu'ils puissent avoir des bénéfices sociaux.
Voilà, Charles Tannock, eurodéputé conservateur britannique, l'un des vainqueurs d'aujourd'hui. Quentin Pille, journaliste au Financial Times, vous êtes l'un de nos invités ici à la Swiss Church au cœur de Londres. David Cameron, cette faible majorité, comment il va la conduire? Est-ce que c'est vraiment pas un problème pour lui, comme le dit Charles Tannock, ou est-ce qu'il va quand même devoir songer à un genre de coalition? Comment il va gérer ça? Parce que c'est vraiment une très faible avance. Hein.
Ça peut aller dans deux directions, effectivement. Parce que si on a une majorité comme ça, très, très petite, ou bien les conservateurs de droite vont tout demander de lui, surtout comme condition pour l'Europe, ou bien il y aura une discipline. Parce que s'il y a trop de révoltes dans le parti, on va tout perdre. Alors, ça pourrait aller dans les deux directions. Mais moi, j'ai peur que ça pourrait aller dans la première direction. C'est-à-dire qu'une minorité dans le parti, mais c'est une assez grande minorité. Dans ce dernier Parlement, il y avait 80 députés qui étaient très eurosceptiques, qui effectivement voulaient sortir de l'Europe. Et pour Cameron, il essaie toujours de les convaincre, mais ils veulent sortir, ils ne veulent pas rester. Cameron dit « je veux rester dans une Europe réformer. Et ça, c'est son problème. S'il peut garder sa majorité, même s'il veut rester en Europe.
Alexandre Afonso, est-ce qu'il n'aura pas besoin à un moment ou à un autre? Est-ce que ce sont les grands perdants et les grands absents pour les 5 prochaines années des centristes?
Bon, c'est clair qu'avec une majorité aussi ténue, ça met David Cameron aussi à la merci de ces backbenchers qui sont essentiellement donc la partie essentiellement eurosceptique de son parti. Donc dans la mesure où il a besoin de majorité, ce petit groupe de députés eurosceptiques pourrait demander beaucoup de concessions de la part de David Cameron. Donc on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans le prochain Parlement, mais il y a des chances que peut-être qu'il aura besoin de négocier des accords informels, soit avec ce qui reste des libéraux-démocrates ou avec d'autres petits partis régionaux comme le DUP, les unionistes nord-irlandais.